patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand.
Vous avez passé un bel été ?
Oui, et j'ai plaisir de retrouver tous nos amis qui nous écoutent et qui suivent l'émission Patrimoine et spiritualité.
Alors, cette saison radiophonique, on va la commencer avec quoi ?
Eh bien, nous allons commencer avec un écrit de Gilles Lade, qui gracieusement m'autorise à lire ses ouvrages. Donc, nous allons commencer par l'ouvrage « Dans le chemin de Buis ». Alors, Gilles Lade, en quelques mots, est né à Figeac en 1949. Il y réside pour sa retraite et il a travaillé comme enseignant en lettres dans le Lot. Et c'est notre poète figeacois. Il a obtenu le prix à Antonin Artaud en 1994.
Très bien.
Alors nous allons côtoyer un monsieur qui s'appelle Campriel de la Brogne. Et je vous expliquerai pourquoi on prononce Brogne. Donc sur le cosse de Gramat. Mais cette prose a tout de la poésie.
Très bien, allons-y.
Alors je commence. L'histoire de certains hommes se réécrit constamment dans les mémoires. C'est le cas de Campriel. Campriel de la Brogne, dit-on désormais. La Brogne, alors que ça s'écrit B-R-A-U-N-H-I-E, la Brogne, dites-vous. Nom hirsute et bizarre au premier regard, mais familier à tous les Quercinois. On le prononce Brogne, et se lèvent alors des chaînes sans fin, tenaces, tordues, une dense forêt venue tout droit d'avant, même l'histoire. Accrochée sur le dôme qui domine l'Écosse, en plein cœur du Lot, Brogne, cet enclos de légende où passe, en fracassant les fourrés, le sanglier sans regard. Brogne, ce labyrinthe de crevasses, de vallons secs, de sentiers à fleurs d'herbe. Brogne, ce socle malaisé où le calcaire réaffirme son empire en longues dalles effritées, en blocs enserrés de racines. Et les clous, ces brusques creux parfois cultivables, désoriente celui qui ne discerne plus, de leur fond, la direction du retour. Ce nom de Brogne vient, paraît-il, d'une ancienne famille noble du Quercy, les Barasques de Bédué. On a écrit Barasconia, Brasconia, et, par la surcompression des écorces verbales, Brogne. C'est un des mots mythiques du Quercy. Il laisse toujours un peu songeur, celui qui le lance, celui qui l'écoute. Ils imaginent un empire de loups, un repaire d'insoumis, l'encerclement infini des moutons, la silencieuse et laborieuse retraite de Saint-Nymphèse. Vous savez, on en a parlé déjà de Saint-Nymphèse, l'évangélisateur qui, dans ces lieux, et par le Quercy, creusa des abreuvoirs à même le roc, où vient toujours se piéger la lumière, où le rapace et le rossignol piquent quelques gouttes et interrogent leurs regards sans mesure commune sous le passage immobile du ciel. N'est-ce pas beau ?
Oui, très joli.
Que dire de Campriel ? Et pourquoi en parler ? Puisque seul demeure le vent là-haut. Le vent toujours si facile, je veux dire si constant et si mélodieux, quelle que soit son âpreté, puisque si peu de traces des défrichements et des cultures y résistent à quelques hivers, et, ce qui est plus terrible, à quelques printemps. Seulement cet homme, ses actes, sa personne, sont présents dès qu'on s'attarde à converser du passé avec les habitants de la région. Campriel était venu au début des années 30. Vous voyez, nous remontons dans l'histoire. des plateaux situés sur la rive droite de la Dordogne et qu'on appelle Cosse de Martel. Le principe selon lequel le déplacement vers le nord apporte plus de rigueur, plus d'âpreté, ne trouve pas d'application ici. Pas de carène rocheuse à l'angle des champs, pas de pente encombrée de cailloux. L'hiver, la neige part vite des combes. Elle prend plus difficilement encore au bord de la Dordogne. L'été n'y tend pas douloureusement la terre sur le calcaire comme autour de Gramat. Donc, ce monsieur, il était né dans un hameau de cette contrée intime, toute humaine, au recoin préservé. Il exploitait la ferme de sa tante, mi-labour, mi-pacage, sur le large versant d'un pêche, surplombé d'une tour, elle-même, cachée par un bouquet de chênes dont le vert persistant faisait penser à des yeuses. Son père, le bourrelier du village, préférait la compagnie du marteau, ses rebonds apprivoisés, ses reflets plomb-argent, aux vocables humains. Il portait sur son fils un regard inquiet, dubitatif, comme s'il ne lui reconnaissait pas les vertus traditionnelles. Il sentait toutefois chez lui un grand désir de parler, une attente nerveuse quand il lui rendait visite à l'atelier et qu'il promenait sa main de l'icole en courroie. Lui, le père, tout sautait d'irritation et d'émotion dans sa moustache qu'on lui reconnaissait gauloise. D'émotion, parce qu'il n'avait pas la parole simple de sa femme, morte 10 ans plus tôt, et qui commençait à bien dégourdir ce sauvage né de fils. Même s'il avait la silhouette de la mère, s'il était longiligne, tendu, virevoltant, comme pour échapper au regard des autres, même s'il portait avec élégance le béret, même si les chemises et les pantalons lui tombaient bien, même s'il menait les bœufs à l'attelage, comme en se jouant face à eux et donc à reculons, l'aiguillon de noisetier tapotant le joug, sans guère de mots ni d'ordre, il les tirait du regard sur l'interminable chemin qu'ils avaient à parcourir ensemble. S'il avait toutes ces qualités, il n'avait pas celle de dire clairement ce qu'il voulait, ce qu'il avait. Père et fils parvenaient cependant à nouer le dialogue sur les riens de la journée, du village, sur un événement lointain qui avait pu franchir les mailles des collines. Ils en restaient là, et quand le fils repartait vers la ferme, le bougonnement du père ressemblait au grincement des deux pièces mal appariées sur lesquelles il suffirait de raboter quelques millimètres pour un parfait usage. Ce fermier d'occasion, selon les termes du père, aimait véritablement le lieu restreint de son existence. Il en percevait la beauté comme une évidence mal partagée, quand il confiait de façon un peu détaillée son émoi devant un éclairage particulier du soleil, ou l'harmonie des coloris d'automne, il décelait une légère inquiétude dans l'œil de son interlocuteur. Certes, l'autre comprenait, était d'accord, mais l'esthétique ne devait pas ainsi submerger les impératifs pratiques du paysan. Ce hameau surplombant légèrement le confluent de 3 ruisseaux, ramassé dans la coquille herbeuse d'un coteau, aéré par une place irrégulière et pentue, réunissait tous les charmes de la région. La pierre, d'un jaune tirant sur l'oranger, sortait comme mûrie de la terre, éclairait les journées même tristes. Aux confins des causses jurassiques et du Limargue, Elle a dans ses parages un velouté unique, un profil luxueux et simple qui met en joie. Les tuiles, terre de sienne, ou couleur de très vieux vin, piquetée de lichen, renforçait par contraste la luminosité des murs. Chaque maison trouvait sa juste assise, décennie après décennie, faisait varier autour d'elle les tons de vert, les gris des branches nues. L'hiver, la fumée rabattue des courtes cheminées enveloppait Campriel d'images appariées. L'odeur du bois de chêne et les longues matinées d'abattage, celle du bois et du noyer, de la tempête qu'il avait arrachée. Il avait apprivoisé cette haleine rôdant bas sur les toits, comme un chien que l'on chasse et qui, l'échine rampante, revient. Il longeait aussi les grandes demeures, au toit à la mansarde, recouverte d'ardoises. Leurs treilles surabondantes cachaient des pelouses réservées aux conversations et aux jeux. Il supportait mal le ton vaguement protecteur des propriétaires, décelait l'ambiguïté de leur rapport à la terre et aux villageois. Tout en remarquant leur manière différente de traiter le langage avec une distance curieuse, comme s'ils n'étaient pas faits pour dire la chose, ici et maintenant, à la manière des siens. Ils comprenaient mal la haine que les jeunes femmes portaient à la fille du notable, et ils comprenaient encore moins pourquoi, lorsqu'elles le croisaient, elle ne lui rendait pas son regard. Son âge lui avait permis d'éviter la guerre de 14. Il aimait écouter les récits de ses aînés, ou les combats. Les paysages traversés, les villes, les femmes étaient l'objet de récits âpres et burlesques. Un mutilé qui promenait par les rues une silhouette dévastée et terriblement vigoureuse, l'insulte facile et le désespoir déguisé en sarcasme lui laissaient une impression durable de catastrophe. Quelque chose était cassé dans le village, et lui-même s'aigrissait. Il prenait ombrage du retour des poilus qui regardaient de haut ce nouveau jeune homme. Lors d'une fête à Martel, alors qu'il prolongeait la conversation après bal avec Delphine, dont le visage mince l'avait toujours troublé, Romain, un de ses voisins, le considérait narquoisement. Très vite, le pugilat s'engagea avec une rudesse inouïe. On les sépara, Delphine s'était éclipsée, il se sentait observé avec hostilité.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Chantal. On se retrouve très prochainement sur l'antenne de Radio Présence Figeac avec une prochaine émission Patrimoine et Spiritualité et la suite de ces lectures. On va juste conclure en disant aux auditrices et auditeurs qu'on peut retrouver cet ouvrage de Gilles Lade aux éditions Tertium de Vérac. C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité, une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.